Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Inès De Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le troisième jour de notre série consacrée à la propriété intellectuelle, clé de voûte des économies de la connaissance. Hier, nous avons retracé l'histoire de la protection des secrets de fabrication, de la Renaissance à la Révolution. À présent, nous quittons le monde des inventeurs pour rejoindre celui des auteurs. La création artistique est protégée par le droit depuis plus de deux siècles, mais les bouleversements du numérique invitent aujourd'hui à repenser le partage de la valeur entre auteurs et diffuseurs. Une nouvelle répartition qui se heurte aux résistances des géants du numérique. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des nouvelles batailles du droit d'auteur, nous accueillons Mélanie Clément-Fontaine, professeure en droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, autrice de L'œuvre libre parue aux éditions Larcier. Avec nous également en duplex d'Aix-en-Provence, Valérie Laure Benabou, professeure de droit privé à l'université Aix-Marseille et co-autrice avec Judith Rochefeld de cet ouvrage « À qui profite le clic ?» paru chez Odile Jacob en 2015. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martin.
Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, un vice-président mondial de Google est venu expliquer ici que sa société comptait s'exonérer de l'application de la loi sur le droit d'auteur que nous venons de voter. Google nous dit qu'elle est prête à reconnaître le droit voisin du droit d'auteur si et seulement si la presse renonce à l'exercer. Un peu comme un employeur qui ferait signer un contrat de travail si et seulement si le salarié renonce à sa rémunération. Monsieur le Premier ministre, il faut que force reste à la loi d'abord, parce qu'il s'agit de la presse et donc d'un pilier de la démocratie. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un principe. En France, la loi est faite pour tous.
La France, Monsieur le Président Mignola, était le premier État à transposer cette directive. La société Google a lancé la semaine dernière un nouvel outil de publication pour les éditeurs. Il a été configuré de telle sorte qu'il ne donne lieu à aucune rémunération des éditeurs et agences de presse. Je le dis, cette position n'est pas acceptable. Imposer ainsi, de manière purement unilatérale, les règles du jeu et écarter toute place à la négociation, c'est contraire à la fois à l'esprit et à la lettre de la directive. Nous savons, vous et moi, et nous tous ici présents, que la réponse qui doit s'imposer est une réponse européenne. Le bras de fer doit être, si bras de fer il doit y avoir, doit être engagé par l'Europe. Nous ne voulons pas le faire dans un esprit de frilosité, mais dans un esprit de promotion de la diversité culturelle et du pluralisme.
Bonjour Valérie Laure Benabou et Mélanie Clément-Fontaine.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on entendait Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée, suivi du Premier ministre Édouard Philippe. C'était hier. Google refuse donc de payer pour le droit voisin créé par la directive européenne sur le droit d'auteur qui a été adoptée le 26 mars dernier. Comment interpréter d'abord cette décision de Google, Valérie Laure Benabou ? Est-ce que c'est une déclaration de guerre ?
Alors, ça n'est pas si surprenant. En réalité, quand on regarde un peu en arrière sur l'histoire de l'adoption de ce texte et de ce droit, puisque en Allemagne et en Espagne, déjà, il y a quelques années, un tel droit avait été adopté et à chaque fois, Google avait refusé d'y déférer. En Espagne, ils avaient purement et simplement arrêté leur service Google News. Et en Allemagne, ils avaient fait à peu près ce jeu de poker menteur en disant bah, « Écoutez, nous, si vous voulez continuer à être référencés, on veut bien vous octroyer un droit voisin à taux zéro. » C'est-à-dire finalement exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui face à cette tentative de la France de transposer le droit voisin qui a été adopté par la directive.
Alors la différence aujourd'hui, c'est que c'est une directive européenne, justement, Valérie Laure Benabou, et qu'on peut imaginer que le rapport de force va être plus compliqué entre Google et l'Union européenne.
C'était le pari des États qui ont promu cette directive, et notamment des Allemands qui étaient un peu furieux de la fin de non-recevoir qu'ils avaient reçue avec leur propre législation, et de monter en puissance en quelque sorte ce droit voisin à la hauteur de l'ensemble des États membres pour avoir une puissance de négociation accrue. Le problème dans lequel se trouve peut-être la France aujourd'hui, c'est que comme on a voulu anticiper la transposition, on se retrouve face à Google isolé. Alors, est-ce qu'il ne faut pas évidemment attendre que la négociation se fasse de façon multilatérale pour peser davantage et peser au plan européen contre Google? Et voilà, c'est un vrai bras de fer qui s'engage effectivement.
C'est l'une des questions qui se posent. Et alors, il faut expliquer, Mélanie Clément-Fontaine, en quoi consiste cette directive européenne sur le droit d'auteur qui a été adoptée en mars, et qu'est-ce que ce droit voisin pour la presse qu'elle a créé?
Alors, la directive de 2019, c'est la directive droit d'auteur dans le marché unique numérique. Elle vient modifier la directive de 2001, remplacer la directive de 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et droit voisin dans les sociétés de l'information. Et l'enjeu est donc d'adapter le droit d'auteur et les droits voisins aux nouvelles questions que pose le numérique.
Alors, concrètement, il s'agit de faire payer les géants du numérique comme Google quand ils référencent un certain nombre d'articles.
Alors, il y a ça, c'est la disposition dont on parle maintenant, c'est-à-dire le droit voisin reconnu aux éditeurs de presse pour prévoir un droit à rémunération des éditeurs de presse lorsqu'il y a une utilisation numérique des contenus qu'ils éditent. Alors, c'est pas un simple lien qui est fait vers ces contenus, mais vraiment une utilisation, c'est-à-dire une agrégation, par exemple, d'extraits de ces contenus. Et dans cette directive est recherché un équilibre finalement entre les différents acteurs qui se rencontrent autour du droit d'auteur et des droits voisins, c'est-à-dire le public, les auteurs, plus généralement les titulaires des droits, et puis les investisseurs. Et là, un nouvel acteur, ce sont effectivement les intermédiaires techniques.
Et alors, comment comprendre aujourd'hui que Google réussit à échapper à ce droit d'auteur? Comment concrètement Google parvient à y échapper, à Mélanie Clément-Fontaine?
Google est l'architecte des données. C'est-à-dire que c'est par ses services que l'on accède finalement au contenu en ligne. Et donc, à partir de là, il est difficile de contourner finalement cette entreprise, chacun de nous sommes tributaires des outils tels que les moteurs de recherche et tous les moyens de référencer les données. C'est pourquoi il peut se positionner finalement cette entreprise peut se positionner de la sorte et dire je peux maintenant refuser de faire des agrégations de contenu de presse. Et puis, ne faire que des liens. Vous serez toujours référencé, mais sans doute moins. À vous de choisir.
Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de rémunération. Valérie Laure Benabou, on peut tout de même considérer que c'est une réussite que les pays européens aient réussi à s'entendre sur ce sujet du droit d'auteur. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce consensus?
Alors, on jugera sur pièce, parce que ça sera une réussite si effectivement le droit réussit à se faire appliquer. Il faut être pragmatique ici. Le but de la disposition, enfin de cette disposition, c'était véritablement de redresser un petit peu les problèmes économiques que connaît la presse au regard du changement de médium qui font que aujourd'hui les modes de financement traditionnels de la presse, la diversité culturelle, la diversité de l'information sont un peu mises à mal, et que par ailleurs il y a des grands acteurs qui puisent profondément à foison dans les contenus sans finalement bourse délier ou sans participer au système de financement. Google, pour éviter ça, avait depuis un petit temps engagé des discussions et même avait admis participer au financement d'un fonds pour la presse en France, c'était un accord qui avait été signé par François Hollande sous les hurrahs de tout le monde pour dire, Google s'implique, mais Google Google n'a jamais voulu s'impliquer au sens où ils ne veulent pas être débiteurs d'une rémunération liée à l'utilisation des petits extraits qu'ils font dans notamment leurs abstras. Ils ont déjà réussi à faire échapper le lien du champ d'application du droit. Et en réalité, ils sont exactement ce que disait Mélanie Clément-Fontaine à l'instant, en train de reconfigurer leur service pour faire en sorte qu'il y aura toujours une remontée de l'information, mais qui se fera par un autre biais, qui n'est pas l'utilisation d'extraits ou l'agrégation d'éléments, mais des liens.
Google une question de principe, qui ne refuse de rémunérer ainsi les auteurs. Pour cette raison, je voudrais qu'on écoute, Valérie Lorbenabou, la défense de Google.
L'équilibre, en fait, qui aujourd'hui, en fait, existe, et on pense que justement, avec la nouvelle modification, on espère que ça va justement permettre aux éditeurs de presse de mieux se rendre compte de cet équilibre-là, c'est quoi ? Un moteur de recherche, c'est pas une plateforme classique qui cherche à garder les internautes chez lui. Le moteur de recherche, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'amener les gens à l'information, qui cliquent. Quand vous regardez ce qui se passe réellement côté moteur de recherche, à peu près tous les mois, on a 8 milliards de clics vers des éditeurs européens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend les 2 heures d'émission, entre 9h et 11h, on va avoir 24 millions de personnes qui vont cliquer, qui vont aller voir des sites d'éditeurs européens. C'est ça la réalité. À partir de là, le moteur de recherche envoie du trafic, l'éditeur reçoit ce trafic-là et peut le monétiser avec de la publicité, avec de l'abonnement, avec d'autres éléments.
Voilà, Benoît Tabaka, le directeur France de Google, qui met en avant les avantages que retirent les éditeurs de presse du moteur de recherche. Il faut peut-être ici faire la différence, Mélanie Clément-Fontaine, entre les grands organes de presse et les petits qui, eux, ont peut-être davantage besoin de Google.
Je crois que oui. Enfin non, ils ont tous les éditeurs de presse ont besoin de ces outils et notamment du moteur de recherche de Google, puisque comme ça l'a été très bien exprimé ici, c'est le passage obligé et effectivement Google permet cet accès, facilite cet accès.
Donc il y a une dépendance économique qui est importante. Quelles pourraient être les conséquences pour les éditeurs de presse, Valérie Lorbenabou, si Google met sa menace à exécution et effectivement esquive à la fois la question du droit d'auteur, mais en même temps cesse de référencer les différents liens de presse?
Alors, deux, trois observations. D'une part, ce qui vient d'être mis en place, ce n'est pas un droit d'auteur, c'est un droit voisin des éditeurs de presse, ce qui a été un peu une discussion parce que le droit d'auteur des journalistes sur leurs œuvres existe déjà. Et on a rajouté, si je puis dire, une couche de droit sur des droits qui existaient déjà au bénéfice des éditeurs. Donc c'est un peu inexact de dire qu'il s'agit de droit d'auteur puisque c'est un droit spécifique pour les éditeurs de presse. Et d'ailleurs, en France, on a élargi le champ d'application du texte aux agences de presse, ce qui n'était pas prévu dans la directive. Juste une petite précision terminologique, mais qui n'est pas sans conséquence, parce que lors des débats, il y a eu énormément aussi de discussions au sein de la presse sur la légitimité de cette nouvelle couche de droit et son articulation avec le droit d'auteur des journalistes. Donc c'est déjà une disposition qui n'a pas fait l'objet d'un consensus nécessairement
immédiat. Qu'est-ce qui faisait débat à ce moment-là
au sein de la presse? De savoir s'il y aurait à supposer qu'il y ait un ruissellement, hein, c'est-à-dire qu'on puisse faire payer Google pour l'utilisation qu'il fait de ces éléments. Finalement, qui va en bénéficier? Est-ce que ce seront les éditeurs au titre de leurs droits voisins? Est-ce que ce seront les journalistes au titre de leurs droits d'auteur? Comment va s'articuler ou vont s'articuler ces différentes prérogatives entre elles? Et c'est déjà quelque chose qui est sur la place et qui doit être discuté. L'autre chose, c'est que en principe s'engage aujourd'hui une discussion collective et plurinationale pour essayer de trouver des standards de marché. C'est normal à ce stade que Google soit sur une position dure, qui a toujours été encore une fois celle qu'il a adoptée depuis le début, et mette en exergue une réalité qui est que les systèmes de moteurs de recherche qu'il a développés, sont également des éléments essentiels pour la visibilité de la presse sur Internet.
Et en même temps, la perte de revenus des éditeurs français, qui est due à la domination du marché publicitaire par Google et Facebook, se situerait entre 250 millions et 320 millions d'euros par an. C'est la conclusion d'une étude qui a été commandée par l'Alliance de la presse d'information générale. Ça constitue une perte considérable pour les éditeurs de presse.
Bien sûr, la captation de valeur économique, elle est réelle, et donc dire seulement nous sommes promoteurs des contenus et grâce à nous on augmente le trafic, c'est passer sous silence le fait qu'il y a des effets de substitution et des effets de redirection du marché publicitaire vers ces intermédiaires au détriment des producteurs de contenu. Donc en gros, il faut réussir à essayer de trouver un juste équilibre entre ces prétentions antagonistes pour réussir à rétablir des systèmes de financement de la presse qui permettent d'en pérenniser l'existence et surtout de ne pas faire une presse de mauvaise qualité.
Mais un juste équilibre qui paraît un peu compliqué à trouver, en l'occurrence, Mélanie Clément-Fontaine, puisque Google ferme complètement la porte à la discussion.
Je crois que la réaction, elle s'explique effectivement par le fait que la France est partie seule et sans doute dans les mois à venir, il y aura une discussion. Ce que Google, je pense, la position de Google est de ne pas sortir de son rôle d'intermédiaire. Qui offre des outils d'accès au contenu, mais qui ne produit pas ce contenu et donc qui est finalement hors de la chaîne économique du droit d'auteur et plus largement des droits voisins. Donc c'est son positionnement. Ce positionnement, on le voit, est difficilement tenable, sauf à mettre en péril finalement le marché de la propriété intellectuelle, en tout cas de la propriété littéraire et artistique. Et par voie de conséquence, on peut espérer qu'un accord soit trouvé. Ce débat, on l'a aussi avec les plateformes d'hébergement de contenu.
Alors justement, la directive européenne prévoit également que les plateformes diffusant des contenus téléchargés par les internautes prennent des mesures pour faire respecter le droit d'auteur. Et alors pour certains, il s'agit d'une atteinte à la création artistique. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Laure-Benabou ?
On est à nouveau sur le même type d'enjeu, c'est-à-dire que d'ailleurs les acteurs qui sont visés par cette disposition sont un peu les mêmes, puisque derrière YouTube c'est toujours Google. Alors je ne dis pas qu'il y a une Google mania en ce moment, mais voilà, c'est pas un hasard si derrière il y a des acteurs extrêmement dominants nord-américains qui jusqu'à présent ont bénéficié d'un effet d'aubaine parce que les législations n'étaient pas suffisamment claires quant à ce qu'ils faisaient avec les œuvres qu'ils utilisaient de manière inhabituelle, non classique au regard des règles du droit d'auteur traditionnel, et qui aujourd'hui se retrouvent dans un acculé à un moment où on dit, ah, bon, il faut, en gros, il va falloir que vous participiez au cycle de financement de la création. Et surtout, il y a aussi un autre enjeu et qui existe aussi en matière de droit voisin, c'est les enjeux concurrentiels. C'est-à-dire que si on laisse un acteur très puissant imposer ses règles du marché, il y a d'autres acteurs peut-être un peu moins puissants qui vont s'aligner sur ce standard bas et dire, bah, nous, jusqu'à présent, on a payé, on a été vertueux, mais si vous laissez un gros qui ne pas être vertueux, on n'a pas de raison de continuer à l'être. Et il y a un risque d'effondrement, si je puis dire, qui risque de se manifester si on s'aligne sur ce standard bas.
C'est aussi une atteinte au droit de la concurrence, Mélanie Clément-Fontaine, avec ce risque de monopole. On a pu entendre un certain nombre de débats aux États-Unis comme en France sur la nécessité de démanteler ces géants du numérique. Il y a aussi cette idée d'un abus de position dominante possible.
C'est sûr que l'activité de ces entreprises est regardée de près sous l'angle du droit de la concurrence, la libre concurrence, et notamment le fait qu'ils centralisent maintenant, quoi, ils regroupent maintenant des activités complémentaires qui vont du moteur de recherche à la voiture autonome, en passant par l'édition musicale, en tout cas la distribution, l'accès à des contenus numériques. Donc on voit que il y a un risque fort de concentration qui est l'enjeu aujourd'hui au cœur des discussions au sein de l'Union européenne.
Et sur cette question de la création artistique qui serait remise en cause avec cette idée qu'on remettrait aux plateformes la responsabilité de distinguer la véritable contrefaçon de ce qui relèverait de l'exception au droit d'auteur et qu'il faudrait pour ça une technologie pour faire la différence entre les deux. Valérie Lorbenabou, vous croyez, vous, que ça pourrait entraîner et bloquer la création artistique?
Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi dans les débats qui ont précédé l'adoption de l'article 17 sur la régulation des plateformes et qu'on a brandi parfois de façon un peu excessive les risques que vous venez de pointer. D'une part, je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit face à une raréfaction des contenus, de la créativité sur Internet. Or, d'ores et déjà, les plateformes ont depuis longtemps mis en place des systèmes qui permettent aux ayants droit qui notifient le caractère contrefaisant d'un contenu, de le retirer, et ce, de manière extrêmement expéditive. On appelle ça le fast track, c'est-à-dire que il n'y a absolument pas à ce moment-là d'examen, de la pesée, de est-ce que c'est une exception ou pas. La société de gestion collective notifie, dit c'est une contrefaçon, et Google, dans les minutes qui suivent, retire. Alors évidemment, ça peut être reposté et reposté et reposté, c'est tout l'enjeu pour les ayants droit d'avoir un système qui leur permet de ne pas passer leur temps à notifier, à renotifier les contenus contrefaisants. Mais ça existe déjà et les retraits se font encore une fois de façon assez expéditive sans que personne n'y ait vu à redire. Donc en réalité, quand on a brandi le spectre de la censure, du filtrage à tout va, c'est un peu en méconnaissance des pratiques déjà courantes depuis longtemps sur des plateformes comme YouTube, avec des systèmes techniques d'identification et de tatouage des œuvres.
Cet argument de la censure de la création, Mélanie Clément-Fontaine, vous paraît aussi un argument de mauvaise foi?
Valérie Lorbenabou l'a très bien expliqué. Il y a là quand même un épouvantail qui est agité au nez du public. Or, pour l'instant, ça ne change pas profondément les pratiques, sinon que on peut espérer que les artistes soient rémunérés pour les avantages économiques que tirent ces plateformes de la mise à disposition d'un contenu protégé.
Alors les conflits autour du droit d'auteur ne sont évidemment pas nouveaux. Diderot dénonçait déjà la contrefaçon dans sa lettre sur le commerce de la librairie, un texte publié en 1767.
Les Estienne, les Morel et autres habiles imprimeurs n'avaient pas plutôt publié un ouvrage dont ils avaient préparé à grands frais une édition et dont l'exécution et le bon choix leur assuraient le succès, que le même ouvrage était réimprimé par des incapables qui n'avaient aucun de leurs talents, qui, n'ayant fait aucune dépense, pouvaient vendre à plus bas prix et qui jouissaient de leurs avances et de leurs veilles sans avoir couru aucun de leurs hasards. Qu'en arriva-t-il ? Ce qui devait en arriver et ce qui en arrivera dans tous les temps. La concurrence rendit la plus belle entreprise ruineuse. Il est certain que le public paraissait profiter de la concurrence, qu'un littérateur avait pour peu de choses un livre mal conditionné, et que l'imprimeur habile, après avoir lutté quelque temps contre la longueur des rentrées, et le malaise qui en était la suite, se déterminait communément à abaisser le prix du sien. Mais ne vous trompez pas, monsieur. Cet avantage n'était que momentané. et il tournait au détriment de la profession découragée et au préjudice des littérateurs et des lettres.
Valérie Laure Benabou, que vous inspire ce texte de Diderot, élu ici par Xavier Martinet? On voit que ce sont des enjeux qui sont finalement proches des nôtres, même si le numérique a bouleversé les usages.
Oui, il y a une certaine permanence dans ce que on vient d'entendre, au regard de ce qui se joue aujourd'hui. La question de savoir comment on protège des gens qui prennent un risque dans une création est une question qui continue de traverser les époques. Et la question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on adapte les curseurs aux nouveaux enjeux, aux nouvelles menaces et aux nouvelles formes d'utilisation pour continuer à inciter ceux qui sont à la source de la création à le faire et sans être en danger dans leur subsistance à la fois personnelle pour les auteurs, personnes physiques, et économique pour les agents.
Et alors, pour répondre à la question que vous posez, on trouve différentes conceptions du droit d'auteur, une conception anglo-saxonne qui s'appuie sur la common law, une conception continentale qui s'appuie, elle, sur le droit romain. Commençons peut-être par la conception anglo-saxonne, Mélanie Clément Fontaine. Quelles sont les spécificités du copyright et de sa philosophie?
Alors, ça dépend si on le regarde de notre point de vue européen ou du point de vue nord-américain. Du point de vue européen et notamment français, on a tendance à considérer le copyright comme un droit qui privilégie finalement l'intérêt général dans le sens où ce droit a pour objectif d'accroître le savoir et le progrès de la science. Et dans un second temps, aurait pour effet d'encourager l'auteur à créer. Par opposition, le droit d'auteur est présenté, toujours dans cette idée assez binaire des choses, comme étant un droit qui reconnaît un statut à l'auteur, donc qui met l'auteur au centre des objectifs du droit, et cela entraînerait la conséquence de rejoindre l'intérêt général.
Donc, si on résume, effectivement, l'économique semble primer sur le juridique dans la vision anglo-saxonne. Valérie Laure Benabou, cette conception anglo-saxonne met l'accent sur l'œuvre et sur les différents usages qu'il est possible d'en faire.
Alors, effectivement, comme il vient d'être rappelé, on a des représentations qui sont toujours un peu trop manichéennes de ces deux systèmes, même si on sait que dans leur fonctionnement, ils peuvent conduire à des conséquences extrêmement différentes. L'illustration la plus connue, c'est celle du Final Cut, par exemple, dans les œuvres audiovisuelles, ou aux États-Unis, dans le cadre du Work Made for Hire, les droits du film sont nativement attribués au producteur parce que c'est lui qui prend le risque de l'investissement, versus un système qui met en exergue les droits du réalisateur et des autres co-auteurs en droit français, ce qui, in fine, fait que c'est le producteur qui va décider de la forme finale d'un film aux États-Unis, alors que cette forme finale va être déterminée en conjugaison avec les auteurs en France. Donc, effectivement, il y a des différences marquées dans les régimes de droit et qui sont fondées sur cette espèce d'idée que finalement celui qui investit prend le risque et que derrière il va falloir garantir ce risque, alors que nous avons une vision en France en tout cas plus personnelle, plus centrée sur la créativité individuelle de chacun qu'il faudrait encourager. Donc, on est sur d'autres schémas de pensée.
On va illustrer vos propos, Valérie Laure Benabou, avec un extrait de Citizen Kane.
It's from Mr. Kane.
Go on.
Sorry, but I'm not interested in gold mines, oil wells, shipping or real estate.
Not one interested? One item on your list intrigues me, the New York Inquirer. A little newspaper I understand we acquired in a foreclosure proceeding. Please don't sell it. I'm coming back to America to take charge. I think it would be fun to run a newspaper. I think it would be fun to run a newspaper.
Je Je pense qu'il serait amusant de diriger un journal, un extrait du film donc Citizen Kane, sorti en 1941, qui relate la vie de John Foster Kane, un mania de la presse américaine. Et alors son réalisateur Orson Welles déplorait justement le fait que ce soit la société de production RKO et non lui-même qui était juridiquement considéré comme l'auteur du film. Ça rejoint vos propos, Valérie Laure Benabou, avec cette idée qu'aux États-Unis, les droits peuvent être attribués à celui qui assume le risque économique.
Voilà. Alors, une fois qu'on a posé cette différence qui est marquée et qui irrigue un petit peu les différents régimes, il faut aussi nuancer le propos au sens où aujourd'hui, les oppositions ne sont plus aussi radicales qu'on a pu les présenter, notamment parce que le droit français fait partie, la France faisant partie de l'Union européenne, j'espère pour encore longtemps, le droit français est désormais très poreux à d'autres cultures et le droit d'auteur qui est en train de se tricoter au sein de l'Union européenne est forcément un droit de compromis entre plusieurs notions, plusieurs conceptions du droit d'auteur, dont les conceptions anglo-saxonnes, alors pas américaines, mais irlandaises, anglaises, notamment, ce qui fait que le droit d'auteur qu'on est en train de construire au niveau européen est forcément un droit qui reflète la diversité de ces manières de voir le droit d'auteur et qui est quelque part au milieu. Donc on n'est plus véritablement dans cette opposition parce que le droit d'auteur européen est un droit qui essaye de ménager à la fois l'investissement et un tout petit peu les auteurs. Ça devient quelque chose d'un peu plus saillant ces derniers temps, mais ça n'était pas le début.
On va voir effectivement qu'il y a une influence mutuelle de ces deux conceptions anglo-saxonnes et continentales. On en parle dans un instant.
We have the best. Give them a test. Hear them and you'll see.
Can I help you, sir?
I like listening to records.
So I see.
Yes, I like listening to records.
Is that the lot, sir?
For the moment,
I've been uptown, downtown.
I get the new records as soon as they're in.
Record Shop de Pablo, une trouvaille de notre réalisateur Philippe Baudouin. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Et nous poursuivons notre discussion sur le droit d'auteur et le partage de la valeur en compagnie de Valérie Laure Benabou et Mélanie Clément-Fontaine.
Le système français, qui remonte à une loi de 1957, protège toutes les créations, quelles qu'elles soient, qui portent l'empreinte de la personnalité du créateur. Donc c'est quoi une œuvre? On a vu, c'est une création portant l'empreinte de la personnalité du créatif, c'est ça qui définit l'œuvre, sans considération de mérite ou de destination, ça c'est ce que dit la loi, et à partir du moment où ces critères sont réalisés, l'auteur, personne physique, est propriétaire de deux types de droits, des droits patrimoniaux, qui sont en fait les droits d'exploitation, et des droits moraux, dont le principal est le droit au respect de l'œuvre. Et ce droit moral, en fait, sera conservé éternellement par le créateur, puis par ses héritiers, et cela, même si des droits patrimoniaux sont concédés.
Voilà, Nicole Ferry-Macario, qui est professeure à HEC. Mélanie Clément-Fontaine, en quoi consiste en France ce droit moral dont parle Nicole Ferry-Macario? Quelle forme, quelles différentes formes prend-il?
Alors, le droit moral recouvre plusieurs prérogatives. Il y a le droit à la protection de l'intégrité de l'œuvre, qui permet à l'auteur de s'opposer à ce que on modifie soit l'esprit de son œuvre, soit la forme de son œuvre, l'intégrité physique de son œuvre. Il y a le droit de paternité qu'on connaît bien, le droit de retrait, de repentir, celui, c'est-à-dire de décider que son œuvre ne va plus être diffusée au public parce que il ne répond plus à ses critères artistiques, ou encore le droit de divulgation, c'est-à-dire le droit de décider si on le souhaite ou non communiquer son œuvre au public. Et c'est ce qui a permis, par exemple, à un auteur de s'opposer à ce que on divulgue une œuvre qu'il avait déchirée et mise à la poubelle, qui avait été récupérée dans ses poubelles.
Aujourd'hui, est-ce que on peut dire que le droit anglo-saxon est de plus en plus influencé par ce droit moral, Valérie Laure Benabou, par exemple, cette question du droit de divulgation?
Alors là, non, c'est encore une différence assez marquée entre les différents systèmes, même si on a vu apparaître un début de droit moral en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, il y a de façon assez parcellaire des illustrations d'un contrôle de l'auteur sur des choses qui pourraient ressembler au droit moral, mais c'est encore assez éloigné.
Je crois que c'est la Californie et l'État de New York qui reconnaissent par exemple le droit des auteurs à l'intégrité de leur œuvre.
Oui, puis il y a de façon comme ça ponctuelle pour les auteurs, pour les œuvres dramatiques, et puis on arrive à récupérer parfois un peu de contrôle à travers d'autres lois, d'autres systèmes, le droit des marques ou le passing off. Enfin, il y a parfois des manières dans le système juridique de récupérer un type de contrôle que nous apparentons au droit moral, mais qui n'a absolument pas cette puissance à la fois juridique et symbolique qu'elle a dans notre pays.
Droit moral qui, par ailleurs, a une durée plus ou moins importante. Par exemple, il dure le même temps que le droit patrimonial en Allemagne, Mélanie Clément-Fontaine, alors qu'en France, on a un droit moral illimité dans le temps.
Oui, c'est ce qui a été dit dans l'extrait qu'on a entendu. C'est un droit qui va pouvoir être exercé par effectivement les héritiers, et cela on en a eu un exemple avec les Suites des Misérables, où le petit-fils de l'auteur de Victor Hugo a pu agir pour atteinte au droit moral de Victor Hugo.
Mais justement, est-ce que la défense de l'intégrité de l'œuvre n'est pas parfois utilisée comme un prétexte pour maintenir un monopole et les rentes qui s'y rapportent, Valérie Laure Benabou?
C'est une jolie question, un peu compliquée, un peu sensible, parce que il y a ici d'un côté quelque chose qui s'affirme, qui est l'idée que les héritiers sont ceux qui vont pouvoir faire au mieux respecter les intentions de l'auteur, faire vivre l'œuvre telle qu'elle a été conçue et perçue par son auteur, et donc il y a une espèce de rapport patrimonial et de sacralisation de l'œuvre. Et d'un autre côté, ça peut être quelque chose qui entraîne une glaciation pour les générations nouvelles qui, elles, voudraient s'emparer de ces œuvres et les utiliser, voire les triturer, se les approprier, culturellement parlant. Et là, on est face à quel est l'auteur qu'on privilégie? Est-ce que c'est l'auteur mort ou est-ce que c'est la communauté des auteurs vivants?
Et par ailleurs, les entorses au droit moral peuvent avoir des conséquences économiques. Si on atteint à l'intégrité d'une œuvre, ça peut avoir un impact sur sa réputation ou selon la façon dont elle est utilisée. Et si sa réputation est en jeu, cela a un impact sur son prix, Valérie Laure Benabou. Donc on voit qu'il y a aussi des conséquences économiques très concrètes.
Même si, d'un point de vue juridique, lorsque vous agissez sur le terrain du droit moral, vous n'êtes pas censé aller récupérer de l'argent. Hein. C'est véritablement des réparations de type symbolique que vous pouvez escompter quand vous agissez en violation du droit moral. Il faut noter quand même une modification assez intéressante de la jurisprudence française sur ces questions. puisque depuis, notamment Mélanie Clément-Fontaine citait Les Misérables, mais justement la Cour de cassation, dans cet arrêt et dans des arrêts subséquents, a établi une sorte de balance des intérêts entre l'intérêt du droit des titulaires du droit moral et la liberté d'expression au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et c'est une chose qui est désormais récurrente dans la jurisprudence française, de dire aux juridictions de fond, attention, ne donnez pas toujours le primat au titulaire du droit moral, vérifiez qu'il y a des espaces pour une liberté de création, notamment dernièrement sur Bernanos et le dialogue des Carmélites, où les héritiers de Bernanos s'étaient opposés à une mise en scène qui était effectivement extrêmement éloignée du propos de Bernanos. Et la Cour a dit, bah non, il y a une liberté du metteur en scène dès lors qu'il n'y a pas finalement une violation trop importante du droit moral.
La liberté d'expression face au droit moral, Mélanie Clément-Fontaine.
Oui, le droit moral va pas être appliqué de la même façon du vivant de l'auteur et après sa mort. Après sa mort, l'intérêt du public va prendre beaucoup plus d'importance et donc on va pas priver ce public d'abord d'accéder aux œuvres et ensuite peut-être de pouvoir justement s'en inspirer, aller et créer à partir d'elles. Donc on peut y voir un affaiblissement du droit moral, mais surtout un équilibre entre les intérêts différents. Et ceux qui les exercent après la mort de l'auteur n'ont qu'une fonction de préserver l'œuvre dans l'intérêt du public, mais pas contre le public.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour la législation française d'encadrer le droit moral afin de limiter les effets économiques pervers? Je pense par exemple au droit de repentir qui peut avoir des incidences économiques importantes si finalement un auteur décide de renier par exemple un tableau qu'il aurait peint. Mélanie Clément-Fontaine.
Alors, le droit moral a ceci d'intéressant qu'il a été construit par la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est au cours des litiges, au cours du 19e siècle, que les juges ont petit à petit façonné le droit moral et puis tout cela a été intégré dans la loi de 1957. Depuis, les juges appliquent ce droit moral justement au cas par cas et en fonction de l'évolution de nos sociétés. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de faire confiance à ces juges pour justement opérer les arbitrages qu'il faut et reconnaître de nouveaux usages d'œuvres qu'on n'avait pas anticipé précédemment.
Qui est donc l'auteur d'un film ? Question embarrassante. Car comment déterminer dans une œuvre qui comporte un nombre considérable de collaborateurs l'auteur véritable ? Pourtant, chaque collaborateur a sa part dans une œuvre collective. Aucun n'est inutile. Il importe donc de déterminer les responsabilités de chacun et de voir à qui revient la paternité d'un film. Tout naturellement, on fait signer un film par son metteur en scène. Car en somme, c'est lui qui est chargé de mettre en image le scénario, qui n'est pas toujours de lui. Cette concession me paraît un peu rapide. Il sera utile de consulter certaines personnes qui prennent une part prépondérante dans la fabrication d'un film pour découvrir qui est l'auteur d'un film. Que conclure de ce regard sur ces quatre artisans du film ? Le scénariste, le réalisateur, le monteur, le producteur. Qui est donc l'auteur du film ? On peut affirmer sans crainte de se tromper que c'est celui dont la personnalité marque le plus le film. Ainsi, on arrive à dire que nous avons un film de Zanuck, de Chaïevski, de Bresson, de Leiser. Ainsi, on aboutit à un cinéma d'auteur, c'est-à-dire à un cinéma fait par des artistes qui ont des préoccupations esthétiques.
Une réflexion de l'éditeur de presse et journaliste Léo Bonneville, paru en 1962 dans la revue de cinéma Séquence. La question de qui est l'auteur, c'est une question centrale et qui se complique, Mélanie Clément-Fontaine, dans le cadre des œuvres de collaboration où l'un des auteurs peut éventuellement bloquer l'achèvement de l'œuvre.
Oui, et là, il était question d'œuvres audiovisuelles où, justement, on a des mécanismes qui évitent cet effet bloquant. Parce que les enjeux économiques sont tels autour des œuvres audiovisuelles qu'il fallait trouver une solution. S'agissant des œuvres collectives, elles sont finalement assez rares et ne vont regrouper que deux ou trois personnes, mais guère plus. Donc, on a d'autres mécanismes qui vont couvrir les cas d'œuvres réalisées à plusieurs, telles que l'œuvre collective, où là les droits sont centralisés entre les mains d'une même personne et ce qui évite l'effet bloquant des décisions individuelles.
Valérie Laure-Bénabou, sur cette question de comment déterminer qui doit être rémunéré pour les droits d'auteur, qui est l'auteur d'une œuvre artistique.
Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez fait entendre, c'est cette pseudo-évidence on a un film d'un réalisateur et comme si cette discussion n'avait jamais eu lieu, alors que dans l'histoire du cinéma, la place du réalisateur ne s'est imposée que de façon très progressive, y compris dans le cinéma français. La place du scénariste également, et il y a eu tout un débat très vif entre les professionnels du cinéma pour savoir finalement qui était le plus auteur que l'autre. Et on essaye en France de résoudre cette équation en créant une sorte de présomption de co-autorat entre plusieurs personnes. On essaye également de mettre en place des systèmes qui permettent aux producteurs d'avoir la mainmise économique, la maîtrise économique des circuits de financement en permettant avec des dispositifs techniques de présomption de cession d'avoir les droits dans sa main. Donc en réalité, les enjeux sont plus complexes que... Il y aurait un auteur qui s'impose et puis c'est le réalisateur. C'est une vision un peu naïve, je crois, de ce que c'est qu'aujourd'hui faire un film et ou faire une œuvre audiovisuelle.
Un autre enjeu, c'est
on
aussi...
Le voit avec les séries, par exemple, où on a des pools de scénaristes, on a des auteurs qui changent épisode, des réalisateurs qui changent à chaque épisode, et pourtant, il y a une série qui existe en dépit de la foultitude de gens qui y contribuent, et il est très difficile de faire sortir quelqu'un du lot.
Et puis on peut aussi se demander ce qui doit relever du droit d'auteur, par exemple. Est-ce qu'il faut retenir dans ce droit d'auteur les idées incluses dans l'œuvre, Mélanie Clément-Fontaine? Et si oui, est-ce que ça ne risque pas, là encore, de freiner la création, puisqu'on peut imaginer, considérer la création comme une inspiration perpétuelle d'œuvres passées et des idées d'œuvres passées?
Le droit d'auteur a été pensé justement pour éviter que le monopole qui a été conféré aux créateurs ne bloque les créations futures. Et donc, tout n'est pas protégeable et pour être protégé, il faut que la création remplisse certains critères. Et sort du champ du droit d'auteur les idées. Et c'est il y a une maxime célèbre, les idées sont de libre parcours. Et donc, lorsque l'on va puiser une idée dans une œuvre, eh bien, cette idée, eh bien, on peut en faire sienne pour créer autre chose. Et c'est un point très important et en même temps très fragile à mettre en œuvre par l'application du droit d'auteur.
Sur cette question de retenir dans le droit d'auteur les idées incluses dans l'œuvre, Valérie Laure-Bénabou.
Alors c'est vrai qu'il y a cette summa divisio a priori entre on ne protège pas les idées, on ne protège que la forme d'expression. Une fois qu'on a posé ce postulat, il est un peu plus difficile à mettre en œuvre parce que l'idée est forcément enchâssée dans une forme et que il est parfois difficile d'en faire le distinguo. Mais il y a des espaces très multiples pour les créateurs, d'abord d'inspiration et éventuellement de reproduction. D'abord, il y a des œuvres qui sont tombées dans le domaine public parce qu'elles sont plus protégées au bout d'un moment. Et puis, il y a ce fonds commun informationnel qui, en principe, ne relève pas de la protection. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de protection pour le domaine public, c'est-à-dire qu'il y a, un énoncé qu'il y a, un fonds commun, des choses qui sont éminemment partageables, mais il n'y a pas de définition de ce, de ce qu'il y a dans ce fonds commun informationnel, dans ce fonds commun de création. Et une clarification, à mon sens, de cette notion serait bénéfique pour libérer un peu les énergies et montrer que les espaces du possible sont plus larges que ceux que ferait craindre l'application d'un droit d'auteur qui serait un glaive venant couper l'herbe sous le pied des jeunes créateurs.
Et puis on parlait des auteurs multiples, mais cette question du droit d'auteur, elle se complique lorsqu'il s'agit d'œuvres qu'on appelle transformatives, comme les mash-ups ou les fanfictions. Alors peut-être qu'il faut d'abord définir ce qu'est une œuvre transformative, Valérie Laure Benabou, et nous dire aussi comment doit être, selon vous, répartie la valeur dans ce cas précis.
Alors ce terme-là de transformatif ou de transformation, il est un peu trompeur dans la mesure où toute œuvre de création repose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur de l'existant et transforme l'existant. On crée rarement ex nihilo, de rien, dans un éclair de génie vertical. Bien sûr qu'on reprend des matériaux antérieurs pour nourrir sa propre création. C'est l'histoire de la création qui est ainsi. Donc on transforme, hein, les lois de l'entropie, voilà, rien, tout se transforme, rien ne disparaît, tout se transforme, mais les phénomènes que vous venez d'évoquer, les mash-ups, les mèmes, etc., connaissent aujourd'hui un développement sans précédent, parce que Internet est venu donner une chambre d'écho fantastique à des créations qui sont des créations amateurs. Et c'est ça la difficulté qu'on a à gérer aujourd'hui, c'est que des gens qui ne sont pas des créateurs professionnels se retrouvent confrontés à la situation de devoir, le cas échéant, demander les autorisations d'utiliser ce matériau qu'ils puisent dans ce qu'ils pensent être libre et qui ne l'est pas toujours.
Cette création amateur a complexifié encore davantage le droit d'auteur, Mélanie Clément-Fontaine, grâce à Internet.
Alors, à cela s'est ajoutée une autre complexité, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle qui va reposer sur le traitement de données. Et donc, on va puiser finalement dans les œuvres disponibles en ligne les données, mais comme source informationnelle. Et là, la question est de savoir si c'est une reproduction des œuvres et donc ça tombe sous le coup du droit d'auteur ou ça ne l'est pas. Et il y avait un doute, la nouvelle directive vient lever le doute puisqu'elle autorise cette fouille de données, ce qui va permettre de créer à partir d'autres œuvres, mais on décèlera pas finalement cet emprunt aux œuvres préexistantes.
Alors on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, Valérie Laure Benabou, rapidement sur l'évolution de ce droit d'auteur à l'heure du numérique.
Oui, mais juste pour finir sur les œuvres amateurs, le nouvel article 17 de la directive met justement en place un système qui permettra aux plateformes de devoir payer, entre guillemets, l'autorisation que les auteurs amateurs utilisent ces matériaux lorsqu'ils diffusent leurs vidéos sur Internet. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions pour s'adapter à ces nouveaux usages qui sont rendus possibles par le numérique, qui créent une dissémination de la culture et on doit s'en réjouir. Il faut évidemment trouver les moyens d'assurer les circuits de financement de la création. C'est toujours le défi renouvelé du droit d'auteur.
Adapter les moyens aux nouveaux usages, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne est-elle imminente? Sur fond de tensions au sujet de Boeing et Airbus, les autorités européennes menacent ces derniers jours de représailles.
Et oui, l'Union européenne prête à défendre fermement ses intérêts. Ce sont les propos de la commissaire européenne Cecilia Malmström hier lors d'une réunion avec les ministres du commerce. Défendre, c'est-à-dire appliquer des mesures tarifaires en représailles si les États-Unis taxaient les avions européens. c'est ce dont doit décider aujourd'hui l'OMC, c'est-à-dire le montant d'une amende dans un vieux différend, effectivement, entre Boeing et Airbus, où chaque constructeur reproche à l'autre des subventions abusives. Les États-Unis réclament 11 milliards de dollars. C'est le premier sujet, mais c'est le sommet de l'iceberg de taxes américaines auquel risque d'être confrontée l'Union européenne dans les prochaines semaines, alors que les États-Unis ont multiplié les menaces, taxes à 100% concernant les avions, mais aussi des taxes sur les automobiles, et même une liste de produits de 25 milliards de dollars publiée en avril. Bruno Le Maire jugeait hier qu'il y avait, je cite, « fort à parier que les États-Unis s'engagent dans une politique de sanctions ». Alors est-on à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale ? Écoutez ce qu'en dit Sébastien Jean, le directeur du CEPI.
Alors les 25 milliards, je ne crois pas qu'ils vont les appliquer parce que c'est une liste un peu maximaliste qu'ils avaient annoncée et ils attendaient là-dessus la décision de l'OMC. Donc c'est plutôt probablement les 7 milliards et demi de dollars qui vont être taxés. Ce serait, si c'était le cas, la plus importante mesure de représailles jamais autorisée par l'OMC. Mais il faut vraiment distinguer parce que ce sont deux dossiers différents. Celui sur l'automobile, c'est vraiment un casus belli parce que c'est en dehors des règles de l'OMC et c'est un secteur très important pour les Européens. L'aéronautique est également très important. En revanche, il y a une certaine absurdité à continuer de se disputer comme ça avec des représailles et des contre-représailles, à se disputer pour savoir si les subventions que chacun a de son constructeur sont légitimes ou non, alors que dans le même temps, la vraie question, ce sera aussi de faire face à l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché mondial, qui sera le constructeur chinois, la Comac, qui est en train de se développer. Maintenant, sur l'automobile, je suis peut-être plus perplexe, disons, parce que là, vraiment, on a affaire à une obsession un peu de Donald Trump, le déficit commercial américain, en particulier dans le secteur de l'automobile, en particulier par rapport à l'Allemagne. Et donc, c'est très incertain, mais il n'est pas impossible qu'il va effectivement appliquer des sanctions à la mi-novembre et faire pression de cette manière sur les Européens.
Pourtant, les États-Unis et l'Union européenne ont aussi entamé cette année des négociations pour parvenir à un accord commercial.
Des négociations pour lesquelles les États membres avaient donné leur accord en avril dernier, à condition que l'agriculture en soit exclue. Un accord d'ailleurs séparé sur le bœuf avait été signé en juillet, là aussi vieux contentieux. Mais les négociations sur ce fameux TTIP semblent au point mort. Quant à la coopération avec les États-Unis, Sébastien Jean en parlait, le futur commissaire européen au commerce irlandais Phil Hogan appelait récemment, un mot à peine voilé, à s'unir aussi contre la Chine.
On passe au bref. En France, un premier rapport sur la nouvelle fiscalité du capital conclut qu'il est trop tôt pour juger.
C'est ce que laisse clairement entendre ce rapport de 300 pages d'un organisme proche de Matignon sur le nouveau dispositif appliqué depuis janvier 2018, c'est-à-dire la suppression de l'ex-ISF, impôt sur la fortune, c'est-à-dire lié aux actions ou aux autres titres, et puis l'instauration de la flat tax unique à 30% sur les revenus du capital. Le résultat de cette étude, c'est moins de contribuables assujettis, de 360 000 à 130 000, moins de dépenses de grande fortune à l'étranger aussi, 400 par an juste en 2017, juste avant la réforme, et une réforme moins coûteuse que prévu, 4,5 milliards d'euros au lieu de 5,1. Le ministère des Finances y voit un renforcement de l'attractivité. Quant à l'impact sur le dynamisme économique, notamment l'investissement, les réformes, dit le rapport, mettront des années à porter l'ensemble des fruits que l'on en attend.
Et pour finir, la crypto-monnaie de Facebook perd de la valeur avant même d'exister.
En tout cas, des soutiens, puisque selon le Wall Street Journal, elle vient d'être lâchés par Visa et Mastercard. Parmi 28 acteurs financiers enrôlés par Facebook pour soutenir ce fameux Libra, crypto-monnaie, les deux entreprises ont décidé, je cite, de reconsidérer leur implication dans le Libra, que Facebook voudrait mettre sur le marché pour juin 2020. Mais cette monnaie, précisément, inquiète les autorités pour des raisons de sécurité des flux financiers et même de stabilité monétaire, avait dit Jerome Powell. La France et l'Allemagne s'y étaient opposées, notamment, et puis il y a une réunion jeudi à Washington.
That you come from, yeah. I
Stay High de Brittany Howard. Merci beaucoup Valérie Laure-Bénabou et Mélanie Clément-Fontaine de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Aix-en-Provence qui ont assuré ce duplex. Demain, on ouvre le débat. Faut-il breveter le vivant? On en parle avec la philosophe Antonine Nicoglou et la juriste Alexandra Mendoza-Caminade. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.